J'avais tout simplement oublié de l'allumer. Merci. Donc nous allons aborder la deuxième phase du débat sur la question du Jésus historique. On avance dans le temps. Jusqu'ici, on était autour de la fin du 19e siècle et les 20 premières années du 20e siècle. Avec la deuxième phase du débat, nous abordons plutôt la période des années 1920 à 1950, à peu près. Alors, de quoi s'agit-il dans cette deuxième phase? Il s'agit essentiellement, au point de départ, d'une divergence au sein du protestantisme entre l'exégète Rudolf Bultmann et Karl Barth. La divergence peut être ainsi présentée. Je disais tout à l'heure que Karl Barth insistait sur le fait que pour atteindre la vérité sur le Christ, il faut partir de l'accueil de la parole de Dieu dans la foi. Pour atteindre la vérité sur Jésus-Christ, il est illusoire de se fonder seulement sur les données des sciences historiques, mais il faut partir de la parole de Dieu accueillie dans la foi. Ça, c'était la thèse fondamentale de Karl Barth, thèse qui faisait écho à l'insistance traditionnelle de Luther et de Calvin sur la parole de Dieu et sur l'importance de la foi, l'écoute et l'accueil de la parole de Dieu par le croyant. Mais Karl Barth considérait que, une fois cela dit, il était légitime pour la théologie chrétienne de développer un véritable savoir au sujet du Christ. Ce que refusait Karl Barth, c'était une prétention à atteindre la vérité du Christ à partir des sciences. Mais pour Barth, dès lors qu'on ne commet pas la faute originelle dans laquelle sont tombés certains historiens ou exégètes, dès lors que l'on part de la parole de Dieu accueillie dans la foi, alors à ce moment-là, tout devient possible et il devient parfaitement légitime de constituer un véritable savoir, une véritable science théologique au sujet du Christ. D'ailleurs, Karl Barth a écrit un ouvrage qui s'appelle « Dogmatique » et qui fait autour de 9000 pages. Donc, comme quoi, le fait de partir de la parole de Dieu accueillie dans la foi et non pas des résultats des sciences n'empêchait pas, aux yeux de Barth, de développer un véritable savoir théologique. Or, c'est sur ce point même que l'exégète Rudolf Bultmann va contester Karl Barth. Encore une fois, c'est un débat au sein même du protestantisme. Pourquoi? Eh bien parce que pour Rudolf Bultmann, il est essentiel de souligner que parler du Christ, ça doit être avant tout lié à un événement, l'événement par lequel nous nous laissons aujourd'hui même rejoindre par la parole de Jésus qui nous interpelle. Bultmann, c'est un exégète qui redoute par-dessus tout un savoir sur le Christ qui en quelque sorte dispenserait de la foi. C'est ça la crainte de Bultmann. Il reproche à Barth, au fond, de laisser entendre qu'il y a place pour une science ou un savoir théologique qui serait une manière de détourner de ce qui est la seule chose importante aux yeux de Bultmann, à savoir l'événement par lequel nous accueillons la parole de Dieu aujourd'hui. Au fond, ce que Bultmann redoute chez Karl Barth, c'est le risque d'un discours objectif sur le Christ. Un discours objectif, certes fondé sur la parole de Dieu accueillie dans la foi, mais qui se déploierait de façon extérieure, en quelque sorte. Alors que l'essentiel pour Bultmann, c'est ce qu'il appelle le kérigme. et l'accueil du kérigme dans la foi. Le kérigme, c'est le mot français. C'est le mot français qui traduit le grec kérigma, qui veut dire proclamation. Le kérigme, pour Bultmann, c'est le noyau de la proclamation évangélique. Et qu'est-ce que c'est ce noyau de la proclamation évangélique? C'est Christ est mort et Dieu l'a ressuscité. Ce qui est vraiment essentiel et décisif pour Bultmann, c'est que le croyant se laisse interpeller par ce kérigme et qu'il y acquiesce librement dans la foi. Et il y a un risque, aux yeux de Bultmann, il y a un risque très fort de se laisser aller à des élaborations conceptuelles au sujet du Christ qui seraient autant de manières de se détourner de cette expérience fondamentale du croyant. Je lis quelques lignes de Bultmann. Donc, je cite ce que vous avez sous les yeux. Bultmann se réfère à la manière même dont Jésus parle de Dieu dans les évangiles. Et il dit, Jésus parle seulement de Dieu en tant que l'homme se voit dans sa volonté, atteint par son appel souverain et déterminé dans son existence actuelle par ses exigences, par son jugement et par sa grâce. Ce n'est pas dans l'énoncé de vérités abstraites, de sentences doctrinales, que Jésus parle de Dieu. Mais seulement en parlant de la manière d'être de Dieu en face de l'homme, de la manière dont il agit à son égard. Ainsi, vous voyez que ça c'est vraiment dirigé directement contre Barthes, ainsi Jésus n'apporte-t-il pas la connaissance d'un nouveau concept de Dieu? Pas plus que des révélations sur son essence. Mais il apporte le message, le kérigme, le message de la volonté de Dieu et de son royaume qui vient. Jésus parle de Dieu en parlant de l'homme et en montrant à celui-ci qu'il se trouve à la dernière heure devant l'option décisive et que Dieu adresse à sa volonté un appel souverain. Voilà. Alors, c'est cette idée fondamentale de Bultmann qui explique sa fameuse thèse sur la démythologisation. Bultmann, sur ce point, a eu une position assez radicale. Bultmann dit carrément, lui qui est exégète, il dit carrément, il y a très peu de choses qu'on puisse savoir sur l'histoire de Jésus. Très peu de possibilités d'atteindre un savoir objectif sur l'histoire de Jésus. Alors, Bultmann dit tout de même qu'il y a quelques données qui peuvent être considérées comme sûres du point de vue historique. D'abord, le fait que Jésus est né. Tant mieux, il y a quand même déjà ça au moins. Jésus est né. Le fait qu'il est né sous Auguste, qu'il a vécu sous Hérode, le fait qu'il a exercé un ministère en Galilée, notamment autour du lac de Génézareth, et puis le fait qu'il est mort sous Ponce Pilate. Pratiquement, pour Bultmann, c'est à peu près tout ce qu'on peut savoir de l'histoire de Jésus. Vous voyez que c'est très peu de choses. Alors, Bultmann parle de démythologisation. Pourquoi? Parce qu'il dit, tout le reste dans les évangiles, en dehors de ces quelques points que je viens d'évoquer, tout le reste dans les évangiles, ce sont des traditions qui ont été élaborées par les croyants. C'était une manière pour les croyants de dire le sens de leur foi, mais ça ne doit pas être considéré comme un reportage de ce qui s'est effectivement passé. Par exemple, la marche sur les eaux, pour Bultmann, c'est de l'ordre d'un mythe. Là. Alors, à travers ce mythe, il y a quelque chose d'important qui est dit pour lui, à savoir que le Seigneur est vainqueur de la mort, symbolisé par la mer déchaînée. Mais ce n'est pas possible. de remonter à un événement historique qui serait à l'origine de ce récit de la tempête apaisée, de la marche sur les eaux. Voilà. Ce qu'on appelle le travail de démythologisation. Bultmann réduit au minimum, au fond, l'historique dans la vie de Jésus. Il dit qu'il y a très peu de choses, finalement, que l'on puisse atteindre au titre d'un savoir historique sur Jésus. Bon, nous verrons qu'avec la troisième phase de la quête du débat sur le Jésus historique, on a pris fortement distance par rapport à cette thèse de Bultmann. Hein. Mais à cette époque, Bultmann prend une position très radicale qui est un peu le contre-pied de la position de Karl Barth. On peut dire que très peu de choses, objectivement, sur l'histoire de Jésus. De toute façon, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que, comme croyant, je puisse me laisser rejoindre aujourd'hui par le kérigme, la mort et la résurrection du Christ. Et l'essentiel, c'est que je puisse accueillir ce kérigme dans la foi. Et j'ai cité ici une autre phrase de Bultmann, hein, qui est tout à fait significative, dans sa concision même. Ce que Jésus dit, il ne le dit pas comme quelque chose de nouveau, d'inouï, mais le fait qu'il le dise, et qu'il le dise maintenant, voilà ce qui est décisif. Pour Bultmann, la tradition évangélique ne nous transmet pas un savoir objectif sur ce qui s'est historiquement passé avec Jésus, sauf simplement l'essentiel, à savoir que Jésus est né, qu'il a vécu sous Ponce Pilate, etc., sous Hérode, etc., quelques autres points. Mais pour Bultmann, ce que la tradition évangélique nous transmet, c'est avant tout le kérigme, c'est-à-dire le fait même de l'événement du Christ mort et ressuscité pour mon salut. Alors, nous avons ici une position qui est aux antipodes de celle de Karl Barth, mais il y a un troisième homme qui est intervenu, toujours au sein du protestantisme, un troisième homme qui est intervenu sur la scène, un autre exégète, allemand lui aussi, du nom de Ernst Caseman. Et c'est Ernst Caseman qui a permis de mettre un terme à ce débat, qui a permis de clore en quelque sorte hein, cette deuxième phase du débat sur le Jésus historique. Caseman, qui est un peu plus jeune que Barth et Bultmann, c'est la génération suivante si vous voulez, Caseman, au fond, raisonne de la façon suivante. Il dit, bien sûr, Bultmann a raison de dire que le Nouveau Testament nous transmet avant tout le kérigme de la foi. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Mais Caseman ajoute ceci, quel sens cela a de dire que Jésus est mort et ressuscité si on n'en connaît pas suffisamment sur cet homme Jésus et sur l'histoire de cet homme Jésus dont on dit qu'il est mort et ressuscité. Donc Caseman ne met pas en cause l'insistance de Bultmann sur le kérigme, mais il dit précisément si on prend au sérieux cette insistance de Bultmann sur le kérigme, cela même ne contredit pas l'intérêt pour l'histoire de Jésus, mais cela même oblige au contraire à s'intéresser à l'histoire de Jésus. Parce que quel sens cela de dire Jésus-Christ est mort et ressuscité si on en sait si peu sur l'histoire de ce Jésus dont je dis qu'il est mort et ressuscité. Voilà, en résumé, si vous voulez, le raisonnement de Caseman, qui est un raisonnement très juste, hein, qui trouve une sorte de compromis entre Karl Barth et Bultmann. Non pas en revenant en amont de Karl Barth. Caseman n'entend pas renouer avec ses recherches sur le Jésus de l'histoire telles qu'elles avaient été menées de façon un peu illusoire par certains historiens ou exégètes du XIXe siècle. Caseman prend acte de l'apport nouveau de Bultmann, hein, l'insistance sur le kérigme de la foi. L'important, c'est le Christ de la foi, c'est le Christ en qui je crois, comme mort et ressuscité. Mais Caseman dit, Bultmann, à partir d'une idée qui est juste, va trop loin. En réalité, au nom même de cette insistance sur le kérigme, il faut s'intéresser à l'histoire de Jésus. Alors, ce que je viens de dire là, je le dis sur la base d'un article tout à fait remarquable de Kesman, un article qui a été publié dans un recueil d'essais exégétiques. C'est un article qui date de 1953, mais qui a été réédité en 1972. Et je voudrais vous lire ce texte. Bon, il est un petit peu dense, hein, mais vous allez voir qu'il est d'un équilibre très, très remarquable sur cette question comment articuler l'intérêt pour l'histoire de Jésus et l'attention au kérigme de la foi. Donc je lis, hein, c'est page 3 dans le dossier. Nous rencontrons le Jésus historique dans le Nouveau Testament. Le seul véritable document sur lui, ça c'est très juste, hein. Okay. On ne peut pas dire beaucoup de choses sur Jésus en dehors de ce que nous dit le Nouveau Testament. Oui, bien sûr, il y a l'évangile de Thomas, l'évangile de Pilate, ce qu'on appelle les évangiles apocryphes. Il y a quelques auteurs païens parlent un peu de Jésus, mais c'est très très bref. Ouais, l'essentiel de ce qu'on peut dire sur l'histoire même de Jésus, on ne peut le dire que sur la base du Nouveau Testament. Donc, Kesman dit, nous rencontrons le Jésus historique dans le Nouveau Testament, le seul véritable document sur lui. Nous rencontrons le Jésus historique, non pas tel qu'il a été en soi, mais en tant que Seigneur de la communauté qui croit en lui. Alors ça, au fond, c'est une manière de dire que Bultmann a raison. Ce que le Nouveau Testament nous transmet, ce ne sont pas simplement les faits et gestes de la vie de Jésus. Tout le Nouveau Testament ne nous transmet rien d'autre, finalement, que le témoignage de la communauté chrétienne primitive au sujet de Jésus-Christ. Voilà. Mais est-ce qu'il faut pour autant dire que le Nouveau Testament ne nous transmet rien d'historique? Évidemment non. Et c'est sur ce point que Kesman va corriger Bultmann. Il commence par dire, Bultmann a raison d'insister sur le fait que le Nouveau Testament nous livre un témoignage de croyants sur Jésus, confessé comme Christ, mais Kesman va ajouter, au nom même de cela, il faut reconnaître que nous devons nous intéresser à l'histoire de Jésus et que sur ce point même, le Nouveau Testament nous apporte beaucoup d'éléments. Alors je lis la suite du texte. En identifiant le Seigneur abaissé avec le Seigneur élevé, la chrétienté primitive manifeste qu'elle n'est pas capable de décrire son histoire en faisant abstraction de sa foi. Donc là encore, ça va dans le sens de Bultmann. La communauté, par exemple les évangélistes, n'ont pas pu raconter l'épisode de la guérison de la belle-mère de Simon sans faire une allusion à la résurrection. La belle-mère de Simon qui se lève, c'est le mot qui est employé pour... Jésus lui dit de se lever, la met debout, c'est le mot qui sera employé pour la résurrection. Donc ça c'est vrai, ça va tout à fait dans le sens de Bultmann. La chrétienté primitive manifeste qu'elle n'est pas capable de décrire l'histoire de Jésus en faisant abstraction de sa foi. Autrement dit, le Nouveau Testament n'est pas un simple reportage biographique des simples faits et gestes de Jésus. C'est d'entrée de jeu un reportage signé, si vous voulez, signé par la communauté chrétienne qui s'engage. Voilà. Toutefois, et c'est là que Kesman va critiquer Bultmann, la ligne suivante, toutefois, en même temps, la chrétienté primitive déclare qu'elle n'a pas l'intention de remplacer l'histoire par un mythe. Voilà. À bon entendeur, salut. À bon entendeur, c'est Bultmann. La démythologisation est beaucoup trop radicale. La chrétienté primitive, certes, elle nous livre le témoignage d'une communauté croyante qui reconnaît Jésus comme Christ, mais pour autant, elle n'a pas l'intention de nous raconter simplement des histoires, au mauvais sens du mot, qu'on dit oh, « je raconte des histoires ». Non. Elle a bien l'intention de témoigner de quelque chose qui s'est effectivement produit. Elle n'a pas l'intention, comme dit Kesman, de remplacer l'histoire par un mythe. Elle n'a pas l'intention de substituer une créature céleste au Nazaréen. En fait, alors attention, la phrase qui suit est un peu compliquée, je vais la décrypter. Ensuite, En fait, la chrétienté primitive mène déjà le combat contre un docétisme exalté que contre une doctrine historique de la kénose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, d'un côté, la chrétienté primitive mène le combat contre un docétisme exalté. Le docétisme, c'est le nom que l'on donne à une hérésie qui avait cours dans les premiers siècles de l'histoire chrétienne et d'après laquelle Jésus n'aurait pas été vraiment homme. Jésus aurait pris une apparence d'humanité. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus plus tard dans le cours. Beaucoup de croyants, bien intentionnés, ont cru, autrefois, au deuxième, troisième siècle de notre ère, que Jésus avait pris simplement une apparence d'humanité. Voilà. Ce qu'on appelle le docétisme. Bon. En fait, le docétisme, c'est aussi un peu de tous les temps. Hein. Bon. Alors, Kesman nous dit que la chrétienté primitive, déjà, prenait position contre ce docétisme. Autrement dit, elle considérait que Jésus avait réellement existé comme homme et elle avait le souci de dire quelque chose de son histoire réelle parmi les hommes. Alors, en même temps, d'un autre côté, continue Kesman, la chrétienté primitive mène aussi un combat contre une doctrine historique de la kénose. Bon, la kénose, c'est un autre mot un peu compliqué. C'est le mot qui signifie, un mot technique, pour dire, un mot qui est forgé sur l'hymne de l'épître aux Philippiens, le fils s'est vidé, anéanti, ekénosen. Voilà. Donc la kénose, c'est l'humilité du fils de Dieu. En disant que la chrétienté primitive mène aussi un combat contre une doctrine historique de la kénose, Kesman veut dire que la chrétienté primitive a aussi mené un combat contre une manière de tout réduire à l'humanité de Jésus. Donc en fait, la phrase est difficile, mais c'est une phrase qui, dans un langage technique, veut simplement tenir, si l'on peut dire, les deux bouts de la chaîne. La chrétienté primitive, d'un côté, a voulu honorer pleinement l'histoire réelle de Jésus, et d'un autre côté, elle n'a pas voulu laisser entendre que Jésus était réductible à son histoire humaine. Voilà. Et Kesman continue, visiblement, la chrétienté primitive sait que l'on ne peut comprendre le Jésus terrestre si ce n'est à partir de Pâques, et donc dans sa majesté de seigneur de la communauté, ça va dans le sens de Bultmann, mais qu'inversement, on ne peut pas saisir adéquatement la signification de Pâques si l'on fait abstraction du Jésus terrestre. Et vous voyez que là, c'est de nouveau la critique de Bultmann. L'Evangelium soutient toujours un combat sur deux fronts. Est-ce que c'est à peu près clair? Parce que c'est un petit peu compliqué, hein, mais on voit bien la pointe de la réflexion de Kesman. C'est de dire, oui, Bultmann a eu raison de mettre l'accent sur le fait que le Nouveau Testament nous livre avant tout le témoignage d'une communauté croyante, mais il ne faut pas en déduire pour autant que le Nouveau Testament ne s'intéresse pas à l'histoire de Jésus. Alors, cette thèse de Kesman a été très importante parce qu'elle a lancé ce qu'on a appelé la deuxième quête du Jésus historique. C'est-à-dire que par-delà la critique de Bultmann, par-delà la volonté de démythologisation qui caractérisait l'entreprise de Bultmann, eh bien Kesman, au fond, a redonné courage et espoir aux historiens, aux exégètes, qui ont compris que, tout en retenant l'acquis de la position de Bultmann, ils ne devaient pas renoncer à mener un certain nombre d'enquêtes historiques pour en dire tout de même un peu plus sur l'histoire même de Jésus. Mais sans pour autant revenir à la première quête du Jésus historique, avec les ambiguïtés qu'il a caractérisées au XIXe siècle. Donc c'est ce qu'on appelait la deuxième quête du Jésus historique. Et alors ce qui est intéressant, c'est que cette deuxième, au fond, ce nouveau programme, au fond, qui a été offert aux exégètes et aux historiens, pour qu'ils puissent, au fond, reprendre un ensemble de travaux de fond sur l'histoire de Jésus, grâce à cette correction que Kesman avait apportée par rapport à l'idée de Bultmann. Eh bien, ce programme, il a commencé alors à déborder les limites du protestantisme allemand, et il a gagné un certain nombre d'exégètes d'autres pays européens et d'Amérique du Nord. En France, il y a un exégète fameux qui était très marqué par cette seconde quête de Jésus historique, c'est Xavier Léon Dufour. Xavier Léon Dufour, un exégète qui est décédé il y a une dizaine d'années à peu près. Peut-être certains d'entre vous connaissent son vocabulaire de théologie biblique, qui est un ouvrage de référence. Xavier Léon Dufour est quelqu'un qui a beaucoup fait pour essayer à la fois de tenir compte de l'insistance de Bultmann sur le kérigme, les évangiles nous transmettent avant tout la proclamation du Christ mort et ressuscité, mais en même temps, dans la ligne de Kesman, Xavier Léon Dufour a essayé de prendre à bras-le-corps, au fond, la question de l'histoire de Jésus. Qu'est-ce qu'on peut dire honnêtement de l'histoire de Jésus? Et quand même, il a montré qu'on pouvait en dire un peu plus que ce que croyait Bultmann. Je vous renvoie à ses livres, les évangiles et l'histoire de Jésus, le partage du pain eucharistique, la résurrection, etc. Voilà, ça c'est ce qu'on appelait la deuxième quête du Jésus historique, et on peut dire que dans les années 1960, 70, 80, beaucoup d'exégètes, non seulement protestants, mais aussi bien catholiques, ont travaillé dans ce sens, et ont essayé, dans la ligne de Kesman, ils ont essayé de concilier l'insistance de Bultmann sur le kérigme et l'exigence de chercher, au fond, à savoir tout ce qu'on pouvait savoir du point de vue historique sur la vie de Jésus. On pourrait croire que les choses se seraient arrêtées là, mais il y a eu une troisième phase, une troisième vague, si on peut dire, dans les recherches sur l'histoire de Jésus. Alors, c'est ce qu'on appelle « the third quest », la troisième quête, parce que, en fait, à la différence des deux premières phases qui sont nées en Allemagne, vous avez vu que la plupart des auteurs que j'ai cités, ce sont des Allemands, cette troisième vague, elle est née aux États-Unis. Elle est née aux États-Unis, même si elle a trouvé des échos dans les pays européens, y compris donc en Allemagne. Alors, cette troisième vague, cette troisième phase de recherche sur le Jésus historique, sur l'histoire de Jésus, elle présente un certain nombre d'orientations dominantes que je voudrais résumer. C'est difficile d'en parler, je le dis tout de suite, parce que c'est une phase beaucoup plus diverse que les deux premières. Bon, les deux premières phases, c'est quand même centré autour de quelques hommes, comme je l'ai montré, Barthes, Bultmann, Kesman, moi. Avec la troisième phase, on est en présence d'une mosaïque, une constellation d'historiens ou d'exégètes qui ont chacun leur style, leurs caractéristiques propres. Mais il y a quand même quelques orientations dominantes. Première orientation dominante de cette troisième phase de recherche, c'est qu'on s'intéresse beaucoup à la judaïté de Jésus. Voilà, on replace Jésus dans le monde juif de son temps. Ce qu'on faisait beaucoup moins jusque-là. Alors, posez-moi, qu'est-ce qui a occasionné ce regain d'intérêt pour l'appartenance de Jésus au monde juif, cette manière, au fond, d'insister sur le contexte juif de la vie et du ministère de Jésus? Il y a plusieurs éléments qui ont contribué à cela. Un premier élément, c'est ce qui s'est passé avec la Seconde Guerre mondiale. Certainement, le drame de l'Holocauste a contribué à attirer l'attention d'un certain nombre d'exégètes sur l'enjeu qu'il y a à s'intéresser davantage au conditionnement juif de Jésus. Enfin, ce qui, au fond, en Jésus ou dans son histoire, relève de la tradition de son peuple, de sa religion, de sa culture, etc. Il y a aussi autre chose qui contribue à expliquer cette attention nouvelle à l'insertion de Jésus dans le peuple juif. C'est un certain nombre de découvertes qui ont été faites dans le courant, enfin surtout dans la seconde moitié du XXe siècle, en particulier la découverte des rouleaux de la mer morte. On en a beaucoup parlé dans les années 50, paraît-il, je ne m'en souviens pas, mais je l'ai lu. Il paraît qu'il y avait beaucoup d'articles de journaux à ce moment-là. Et c'est vrai que même après, dans les années 70, 80, encore maintenant, régulièrement, il y a des articles sur les découvertes, tous ces manuscrits juifs qu'on a trouvés autour de la mer morte et dont certains sont à peu près contemporains d'époque de Jésus. Voilà. Donc, de façon générale, on a été très marqué depuis les années 1980, dans le cadre de cette troisième vague, cette troisième quête, par cet intérêt pour la judaïté de Jésus. Une deuxième caractéristique de cette troisième phase, cette troisième quête, c'est qu'elle témoigne d'un grand intérêt aussi pour l'influence des attitudes religieuses populaires de la société gréco-romaine. Bon, ça a l'air contradictoire avec ce que j'ai dit juste avant. En fait, ce ne l'est pas. Parce que s'intéresser à Jésus comme membre du peuple juif, s'intéresser à la Palestine du temps de Jésus, ça veut dire concrètement s'intéresser à une Palestine occupée par les Romains à l'époque de Jésus. Et on sait de plus en plus que la Palestine de l'époque de Jésus était en fait fortement marquée par justement des influences venant du monde grec, du monde hellénistique ou du monde romain. À tel point que même par exemple au niveau des langues, bon, on sait que Jésus parlait araméen, mais aujourd'hui, on ne peut pas le prouver, mais quand même, beaucoup pensent que Jésus probablement pouvait au moins comprendre quelques mots grecs. On ne pense pas qu'il parlait le grec, mais on pense que c'était dans l'air du temps. Il y avait en tout cas beaucoup de commerçants grecs, de langue grecque, je veux dire, qui circulaient en Palestine. Donc, il y a un intérêt très fort pour, on pense que ce monde juif dans lequel Jésus est né et a vécu était un monde en même temps marqué par des influences venant de ces traditions gréco-romaines. On a aussi essayé de repenser la figure de Jésus comme celle d'un charismatique itinérant, pour reprendre une expression qui a été utilisée dans ce contexte de la troisième vague, charismatique itinérant, comme il y en avait beaucoup à son époque. Il y avait beaucoup de sages, de philosophes, de penseurs qui circulaient de ville en ville, porteurs d'un message et éventuellement accomplissant un certain nombre d'actions prodigieuses. Et donc, on a été tenté, dans le cadre de cette troisième quête, de situer Jésus aussi dans ce contexte. Voilà. Alors, on pourrait dire de façon générale que cette troisième vague, cette troisième quête de Jésus historique, elle connaît un certain nombre de parentés avec la toute première quête. On a l'impression qu'à certains égards, la troisième quête retrouve un peu les aspirations des historiens ou des exégètes du XIXe siècle qui essayaient de reconstituer aussi précisément possible la vie de Jésus. Avec les risques que cela présente. Tout à l'heure, j'évoquais le diagnostic sévère de Schweitzer. Les historiens du XIXe siècle ne faisaient que projeter leur précompréhension de leur époque. Donc on pourrait dire, est-ce que les exégètes ou les historiens des États-Unis qui tentent de présenter à leur manière aujourd'hui l'histoire de Jésus ne sont pas eux-mêmes influencés, sans s'en rendre compte parfois, par un certain nombre de représentations sociales ou culturelles de leur propre époque. Bon. Il y a en tout cas, chez ces historiens ou exégètes de la troisième quête, une prétention scientifique qui rappelle celle de la première quête, en amont de la critique de Bultmann. Il faut même reconnaître que parfois, ça prend des proportions, j'allais dire, un peu délirante. Il a existé, je ne sais pas si ça existe encore, mais il a existé dans les années, décennies récentes, un Jesus Seminar aux États-Unis. Séminaire Jésus, qui réunissait un certain nombre d'exégètes, historiens. Ils se penchaient sur un épisode précis, par exemple, je sais pas, la multiplication des pains, ou bien la guérison de l'aveugle Bartimée, etc. Et ils passaient en revue, voilà. Est-ce qu'on peut dire que ça s'est passé réellement, historiquement? Et puis finalement, ils votaient. Et alors, parfois, il y avait une majorité de gens qui disaient oui, ça s'est passé historiquement. Parfois, la majorité disait non, ça ne s'est pas passé historiquement. Bon. C'est quand même très, très bizarre comme manière, évidemment, de traiter les sujets. Donc, c'est un cas un petit peu particulier, un peu extrême, si vous voulez. Il y a un peu quelque chose, une dérive un peu scientiste, parfois, dans certains courants de cette troisième quête. Mais en même temps, cette troisième quête a déjà produit des fruits très remarquables. Et certainement, l'un des fruits les plus remarquables de cette troisième quête, c'est l'ouvrage monumental de John Mayer. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler. John Mayer, vous l'avez lu? Bravo, 1500 pages. Parce qu'il y a déjà... Voilà, parce qu'il y a 4 volumes qui sont parus. Chaque volume fait au moins 500 pages. 400 ou 500 pages. Voilà. Il y a un cinquième volume qui est annoncé. John Mayer a été traduit en américain. John Mayer est un exégète, un prêtre catholique américain, exégète très, très réputé. Et donc, il a produit cet ouvrage en plusieurs volumes. Il y a 4 volumes déjà parus, sous le titre « Jesus, a Marginal Jew ». Alors, les éditions du CERF n'ont pas voulu, à juste titre, traduire littéralement ce titre, parce que ça serait Jésus, un juif marginal. Le mot marginal en français n'a pas la même connotation. Et donc, je crois qu'ils ont traduit un certain juif, je ne sais plus, enfin, quelque chose comme ça. Voilà. Alors là, avec l'ouvrage de John Mayer, on est en présence vraiment d'une œuvre qui rassemble en général les meilleurs acquis de cette troisième vague. Au fond, Mayer met à profit les méthodes historiques, exégétiques, les plus éprouvées, que sorte, et il essaye, moyennant des argumentations extrêmement serrées, de dire ce que l'on est en droit d'affirmer honnêtement sur l'histoire de Jésus. Voilà. Il vaut la peine de s'arrêter sur la définition même de sa méthode. Je vous ai cité une phrase très importante qui se trouve tout à fait au début du premier tome, page 27. Il dit « Le Jésus historique... » Ah oui, voilà, j'ai mis la traduction française. Hein, c'est « Un certain juif Jésus », la traduction des éditions du Cerf. Et donc la citation de la déclaration de Mayer est la suivante. Le Jésus historique n'est pas le Jésus réel. Le Jésus réel n'est pas le Jésus historique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, historien, John Mayer, moi, historien exégète, j'entends arriver à dire ce que je peux honnêtement affirmer au sujet de l'histoire de Jésus. Mais je n'entends pas, je ne prétends pas par là reconstituer l'ensemble du Jésus réel. Au fond, c'est un aveu de modestie. L'historien fait tout ce qu'il peut, mais évidemment, il ne saura jamais tout sur l'histoire de Jésus. Et même Mayer, très modestement, ajoute, il y a beaucoup plus de choses que nous ignorons, finalement. Il y a quantité d'épisodes de la vie de Jésus qui nous sont à jamais inconnus. Mais sur la base de ce qui nous est transmis, avant tout par le Nouveau Testament, nous avons quand même la possibilité d'atteindre au moins ce qu'il appelle le Jésus historique. Qu'est-ce qu'on peut honnêtement dire du Jésus historique? Donc, pour Mayer, la recherche historique ne permet pas de connaître le Jésus réel, c'est-à-dire, elle ne permet pas d'atteindre toute la réalité de Jésus. Elle ne permet même pas de faire de Jésus une biographie raisonnablement complète. Vous voyez qu'il est vraiment très modeste, hein, c'est pas du tout un esprit scientiste qui prétendrait arriver à tout reconstituer, pas du tout. Mais il prétend au moins parvenir à un portrait raisonnable du Jésus historique, c'est-à-dire il prétend pouvoir retrouver une certaine présentation de Jésus honnête et convaincante. Et cela en utilisant les outils disponibles de la recherche historique. Et pour cela, Meyer recourt à une image qui est assez suggestive. Il dit, imaginons un conclave, il emploie ce mot, hein. Imaginons un conclave qui réunirait un catholique, un protestant, un juif, un musulman et un agnostique. On les enfermerait tous les cinq dans la bibliothèque de Harvard, à Cambridge. En parenthèse, ça doit être très éprouvant, parce que moi, un jour, j'ai passé un an à Boston, à Cambridge, et un jour, j'ai travaillé à la bibliothèque de Harvard, j'étais allé chercher des livres dans les magasins, et je me suis retrouvé complètement seul, j'ai eu peur de me trouver enfermé pour toute la soirée et la nuit dans cette bibliothèque. Enfin, bon, fermons la parenthèse. Bon, un conclave, donc, c'est cinq personnages, réunis, enfermés dans la bibliothèque de Harvard, jusqu'à ce qu'ils aient pu atteindre, justement, une vision commune du Jésus historique. Voilà. Ça, c'est le projet de Meyer. Meyer dit, moi, je suis prêtre catholique. Il l'avoue, il le confesse ouvertement, dès les premières pages de son livre. Mais il dit, dans ce livre, je ne vais pas rendre compte de ma foi personnel au Christ, mon propos comme historien, c'est d'essayer au moins de dire tout ce qu'on peut dire honnêtement sur l'histoire de Jésus, tout ce sur quoi des hommes de bonne volonté devraient pouvoir s'accorder, qu'ils soient juifs, musulmans, agnostiques ou chrétiens. Voilà son projet. Voilà. Et donc Meyer s'engage dans cette recherche et il aboutit en effet à mettre en évidence un certain nombre de traits qui contribue à composer un portrait historique de Jésus. Bien sûr, on peut, ça et là, discuter ses conclusions. Il y a tel ou tel point sur lequel, légitimement, on peut être en désaccord avec lui. Mais pour l'essentiel, il apporte vraiment à la connaissance de l'histoire de Jésus. En particulier, je voudrais souligner quelques points qu'il met fortement en évidence. L'un des premiers, conformément à une orientation majeure de la troisième quête, eh bien, Meyer insiste énormément sur l'insertion de Jésus dans le peuple juif, la judaïté de Jésus. Voilà. Il y a des passages très remarquables sur la manière dont Jésus interprète la Torah, par exemple. Il montre la virtuosité de Jésus dans son exégèse de la Torah. Il montre... C'est un exemple que je donne parmi beaucoup d'autres. Il montre que du point de vue historique, Jésus est le premier et le seul à avoir posé l'unité du premier et du deuxième commandement. C'est quand même remarquable qu'un historien de métier puisse montrer cela. Il le prouve vraiment. Il a tout lu, par ailleurs. Il a tout lu. Les traditions, Talmudées, etc. Nulle part ailleurs, ça ne se trouve. Il n'y a que Jésus. Je donne cet exemple, il y en a beaucoup d'autres. Donc la judaïté de Jésus. Autre point qui émerge très fortement de l'ouvrage de Meyer, c'est l'importance du baptiste. L'importance du baptiste. Vous me direz, ben, il suffit de lire les évangiles pour s'en rendre compte. Mais il faut reconnaître que les exégètes n'insistent pas toujours autant finalement sur ce point. Or Meyer montre, preuve à l'appui, là encore, à quel point la fréquentation du baptiste a été déterminante pour le ministère de Jésus. 250 pages sur le sujet, dans le deuxième volume de l'ouvrage de Meyer, et c'est extrêmement convaincant. Même si, bien entendu, et Meyer le montre aussi, le message de Jésus se démarque, à partir d'un certain moment, il se démarque du message du Baptiste, hein, puisque Meyer le montre, le souligne très fortement et très justement, on peut se convaincre que, historiquement, Jésus ne s'est pas contenté d'inviter à la repentance, mais aussi, et même d'abord, il a proclamé la proximité du royaume. Le royaume est près de vous, le royaume s'approche, le royaume est parmi vous. Bien plus, Meyer montre que, du point de vue historique, là encore, et en utilisant vraiment les méthodes les plus éprouvées de l'argumentation historique, il est possible de se convaincre que Jésus a tranché par rapport au comportement des Juifs de son temps, y compris du Baptiste. Il a tranché par rapport au comportement ambiant, par sa manière de se rendre proche de toutes sortes d'hommes et de femmes, y compris des publicains et des pécheurs. Les repas de Jésus avec les publicains et les pécheurs, enfin, des choses que nous savons par les évangiles, mais meilleurs, montrent que, de fait, historiquement, c'est crédible. Voilà. C'est quand même tout à fait important qu'un historien de métier puisse le dire et argumenter dans ce sens. Et puis, dernier point parmi d'autres, et sous réserve, nous attendons le cinquième volume de Meyer, qui sera sûrement très intéressant, puisqu'il promet qu'il traitera des paraboles. Quand même, la parabole, c'est, à mon avis, je ne sais pas ce qu'il va dire, mais certainement, il le pontera à quel point ça fait partie de l'originalité aussi historique de la vie de Jésus, le langage en parabole. Puis il abordera aussi d'autres thèmes, bien sûr, les récits de la Passion, etc. Mais un autre point, un dernier point que je voudrais souligner ici, c'est l'insistance de Meyer sur ce qu'on appelle les miracles de Jésus. Alors bien sûr, Meyer est prudent, c'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, il dit c'est impossible de savoir s'il faut prendre à la lettre tous les récits des évangiles, c'est impossible de savoir dans tous les cas s'il y a eu réellement un événement de miracle à l'origine de tel ou tel récit, ou si c'est la communauté primitive qui en a un peu rajouté. Bon, il est très prudent, il pèse le pour et le contre. Suivant les cas, il aboutit à tel jugement ou à tel autre. Mais il dit, enfin, globalement, ce qui ressort du point de vue historique, c'est qu'effectivement, Jésus, dans son histoire concrète, a posé un certain nombre d'actes qui étaient reconnus comme des actes extraordinaires, comme des actes non habituels. Mais la démarche de Meyer ne consiste pas à dire « il faut croire au miracle hein, », parce que ça, ce serait, bon, ça requerrait déjà un acte de foi. Mais sa démarche consiste à dire, du point de vue historique, on ne peut pas mettre en cause le fait que Jésus a été perçu comme quelqu'un qui accomplissait des faits et gestes inhabituels, extraordinaires, hein, guérison ou autre. Voilà. Donc, avec Meyer, nous avons... je crois, un très beau fruit de cette troisième quête. Je redis que c'est très inégal, cette troisième quête. Il y a aussi, ça va dans tous les sens, évidemment, comme tout courant de pensée, finalement. Il y a des ouvrages qui sont beaucoup moins convaincants. Mais avec celui-là, on est en présence vraiment d'une véritable somme qui, je crois, est très utile, même si elle est très limitée. Hein, parce que, encore une fois, Meyer ne prétend pas rendre compte du Christ en tant qu'objet de la confession de foi chrétienne, il entend simplement rendre compte de ce que l'on peut dire honnêtement sur l'histoire de Jésus. Un petit peu, si vous voulez, comme Jacques Le Goff, hein, l'historien médiéviste qui est décédé il y a quelques mois, a essayé honnêtement de dire ce qu'on pouvait dire comme historien de la vie de Saint-Louis. Voilà. C'est tout à fait dans cet esprit que Meyer a écrit son ouvrage, qu'il continue à l'écrire. Alors je termine par quelques réflexions pour clore hein, ce long développement sur l'histoire de Jésus. Première réflexion que je voudrais formuler, c'est la fécondité des recherches historiques dans le domaine qui leur est propre. Voilà. La fécondité des recherches historiques. Si vous voulez, on aurait pu croire à l'époque de Bultmann, hein, avec la critique radicale de Bultmann, ce qu'il disait sur la nécessité de démythologiser les évangiles, bon, on aurait pu croire que finalement on ne pouvait quasiment rien savoir sur l'histoire de Jésus. Or aujourd'hui, on n'en est plus là. Et aujourd'hui, tout en reconnaissant que, dans la ligne de Karl Barth, si vous voulez, hein, que ce qui est au cœur de la foi chrétienne, c'est vraiment l'accueil de la parole de Dieu, et que ça ne peut pas se prouver par l'histoire, évidemment, ça renvoie à la liberté des croyants, tout en reconnaissant cela, eh bien, aujourd'hui, on peut, enfin, surtout avec des travaux comme ceux de Meyer, on peut tenir que toutes les recherches menées depuis plusieurs décennies ont porté réellement des fruits. C'est-à-dire qu'on sait un certain nombre de choses, tout de même. On ne sait pas tout, loin de là, mais on sait quand même un certain nombre de choses, historiquement, sur la vie de Jésus, sur son ministère et sur sa passion. Et aussi sur le fait que des femmes et des hommes ont dit l'avoir vu ressuscité. On ne peut pas prouver la résurrection, mais on peut au moins dire, historiquement, il y a des hommes et des femmes, plutôt des femmes puis des hommes, semble-t-il, qui ont été témoins de, qui ont dit l'avoir rencontré, vainqueur de la mort. Bon. Donc, fécondité des recherches historiques, mais j'ajoute bien, dans le domaine qui leur est propre. Le bon historien, hein, c'est celui qui sait que il peut pas tout dire. Hein. Il doit faire aussi honnêtement que possible son métier d'historien, mais il ne doit pas transgresser les limites de son domaine. Et dans le cas de Jésus de Nazareth, eh bien, le travail de l'historien, c'est de dire tout ce qu'il peut honnêtement dire sur l'histoire de Jésus, sans prétendre pour autant se prononcer sur la vérité de la foi, de la confession de foi proprement christologique. J'apporte ici une précision importante, quelque chose qu'on risque souvent d'oublier. C'est que l'histoire fait elle-même appel à des témoins. Ce n'est pas parce qu'on est obligé de recourir à des témoignages comme celui du Nouveau Testament qu'on se soustrait à la rigueur historique. Je reprends l'exemple de Jacques Le Goff que j'évoquais. Jacques Le Goff écrit un ouvrage, un magnifique ouvrage sur Saint-Louis. Mais comment peut-il écrire cet ouvrage sur Saint-Louis ? Ben, il a des documents d'archives, il y a des récits, comme ceux de Joinville, etc. Mais il est obligé de leur faire confiance. Il est obligé de faire confiance à ses témoins. S'il ne faisait pas confiance à ses témoins, il ne pourrait rien dire sur Saint-Louis. Donc l'histoire elle-même, bien comprise, le métier d'historien bien compris, appelle lui-même la confiance, une forme de foi, finalement, en des témoins. Donc, je dirais, de façon analogue, on est dans une situation comparable avec l'histoire de Jésus. Pour pouvoir accéder à l'histoire de Jésus, eh bien, on est obligé de faire un minimum de confiance à ceux la seule qui nous parle de Jésus, c'est-à-dire avant tout les évangélistes. Et puis aussi quelques autres, on a aussi quelques autres témoignages en dehors du Nouveau Testament. Alors, deuxième conclusion, je terminerai par là. Ce qui peut être dit sur l'histoire de Jésus doit être pris en compte par la foi. C'est-à-dire que notre foi, si vous voulez, notre foi au Christ doit être une foi honnête autant que possible et une foi intelligente autant que possible. C'est-à-dire, je ne peux pas m'appuyer, je ne peux pas prétexter de ma foi pour mettre en cause un certain nombre de choses qui s'avèrent historiquement fondées. Voilà. Si on m'apprend historiquement que Jésus est mort le 7 avril 30, je n'ai pas le droit de dire qu'il est mort le 8 avril 30, vous comprenez ? Je ne peux pas, au nom de la foi, déformer l'histoire. Donc, la foi doit prendre en compte ce qui lui est dit honnêtement par les historiens. Ce qui peut être dit sur le Jésus historique doit être pris en compte par la foi, mais, bien sûr, j'ajoute, cela ne suffit pas à rendre compte de la foi chrétienne. C'est ce que recouvre la distinction traditionnelle entre ce qu'on appelle le Jésus de l'histoire, comme dit Meyer, le Jésus historique, c'est-à-dire Jésus tel qu'il peut être atteint par les ressources de la science historique, et le Christ de la foi, c'est-à-dire celui qui est connu, au fond, à l'intérieur d'une démarche de foi. La foi a besoin de l'histoire, mais l'histoire ne suffit pas à provoquer la foi, si vous voulez. Alors, sur ce plan, je vous signale deux réflexions récentes et tout à fait intéressantes. D'abord, celle du théologien belge Adolphe Guéchet, qui a dit, au fond, pour articuler l'histoire de Jésus et la foi au Christ, on peut s'appuyer sur la notion de récit qui était fortement développée par le philosophe Paul Ricoeur. Et on peut dire, l'identité de Jésus se révèle à nous comme une identité narrative. C'est-à-dire que les évangiles, ils ne nous livrent pas simplement l'histoire de Jésus comme un fait brut, ils ne nous livrent pas non plus simplement un témoignage de foi détaché de l'histoire, mais les évangiles, avant tout, racontent Il raconte l'histoire de Jésus. Et le Jésus dont il nous raconte l'histoire, c'est inséparablement quelqu'un qui a réellement existé, l'histoire de Jésus, et quelqu'un que la communauté chrétienne proclame comme le Christ, Christ de la foi. Et ce concept d'identité narrative est intéressant pour articuler l'histoire de Jésus et Christ de la foi. Alors vous avez plus récemment encore un autre exemple, une autre tentative d'articulation entre l'histoire de Jésus et le Christ de la foi, c'est celle de Joseph Ratzinger, Benoît XVI, hein, c'est ce qu'il a mis sur la couverture de son ouvrage « Jésus de Nazareth » en 3 volumes, où donc Benoît XVI, Joseph Ratzinger, est soucieux de tenir compte de ce que dit l'histoire, de ce que dit l'exégèse critique ou historico-critique, mais en même temps il dit « les évangélistes nous parlent de Jésus, ils nous parlent d'emblée de Jésus confessé comme Christ ». Et donc, il nous dit, Joseph Ratzinger nous dit, tout ce qui est raconté au sujet de Jésus doit s'interpréter à partir de, au fond, c'est cette lumière de la foi, hein, telle qu'elle est attestée par les évangélistes. Si on omet cela, on passe à côté de ce qui fait la spécificité de la figure de Jésus. Voilà. Comme vous voyez, il y a eu d'intenses débats sur cette question de l'histoire de Jésus. Mais la prochaine fois, nous passerons alors à la christologie proprement dite. Nous verrons tout ce qui s'est passé depuis un siècle, les évolutions de la réflexion, non plus sur l'histoire de Jésus, mais cette fois sur la réflexion sur la foi en Christ, en Jésus confessé comme Christ.